Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Je t'emmène en voyage. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Ingrid Vanet. Aujourd'hui, c'est Philippine qui fait l'interview. Et alors, Ingrid, elle a beaucoup de choses à nous raconter. C'est une aventurière qui a parcouru la Vioza. C'est comme ça qu'on dit, Ingrid ?
Tout à fait.
C'est comme ça qu'on dit. Ok, super. La Vioza, qui est un des derniers fleuves sauvages d'Europe. Et avant ça, elle a fait beaucoup de choses. Elle est notamment aujourd'hui la directrice adjointe de NOE, qui est une association de protection de la biodiversité, notamment la conservation des espèces menacées. Elle a aussi été, et elle est toujours d'ailleurs, la cofondatrice de la Bourse de l'Exploration, qui accompagne des projets en lien avec la préservation de l'homme et de la nature. Avant ça, elle a fait, elle a été dans des entreprises, elle a été chez Théo et chez Engie, où elle faisait de l'accompagnement pour réduire l'impact des entreprises. Et ça fait déjà beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu n'as pas fait, Ingrid? Et elle a aussi fait une grosse, grosse pause pour s'accorder un an. Et ça, on ne le fait pas assez. C'est hyper bien d'avoir fait ça, pour s'accorder un an pour partir en voyage. Ingrid, bienvenue. Comment tu vas?
Merci beaucoup, Philippine. Ben, ça va hyper bien. Merci pour cette introduction et ravie d'être avec toi.
Ravie aussi. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot pour commencer sur Noé et sur justement ton voyage qui t'a amené à renforcer ce lien avec la démocratisation ou plutôt la sensibilisation à la biodiversité?
Oui, avec plaisir. Comme tu le disais en introduction, moi j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans dans le secteur privé, dans des boîtes assez variées en lien avec les enjeux énergétiques notamment et l'économie circulaire, donc tout ce qui est le recyclage des déchets. Et au bout de 10 ans, j'ai eu envie de creuser une thématique qui me tenait à cœur mais que j'avais vraiment que j'avais pas suffisamment formalisé, qui était le sujet de la biodiversité, dont on entend de plus en plus parler, mais dans ma tête c'était pas très clair. Et comme je sentais que j'avais besoin de mieux appréhender ce sujet, j'ai décidé de quitter mon job pour consacrer un an à ce sujet, à la découverte de la thématique du vivant, de notre lien au vivant. Et donc pendant un an, j'ai rencontré énormément d'acteurs du terrain, d'associations, de gestionnaires de parcs, de personnes qui travaillent ou qui s'engagent d'une manière ou d'une autre dans la préservation du vivant pour mieux comprendre le lien qu'on parvenait à tisser avec toutes les autres espèces qui nous entourent. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était vraiment un sujet sur lequel j'avais envie de m'engager, même professionnellement. Et j'ai eu la chance de croiser la route du fondateur d'une association qui s'appelle Noé. Et cette rencontre m'a mené à travailler, à embarquer chez Noé et donc à rejoindre l'équipe depuis quelques mois. Donc je suis ravie. Et en quelques mots, Noé, c'est une ONG qui a 20 ans, qui depuis 20 ans milite et travaille sur la préservation de la biodiversité et du vivant, avec de nombreuses actions, notamment en France et à l'international, en Afrique, dans certains pays où on gère des aires protégées, des espaces naturels. Et en France, on travaille beaucoup avec le secteur agricole et avec tous les acteurs pour sensibiliser aux thématiques de la biodiversité et du vivant.
Ok, merci beaucoup. C'est une présentation hyper complète. Pendant ce voyage, donc, tu as rencontré le fondateur de Noé. Tu as aussi passé un long moment sur un voilier en Antarctique, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans les gros moments phares de ce voyage? Raconte-nous.
Dans les gros moments phares de cette année ou bien de l'Antarctique?
De l'année. Il y a eu l'expédition en voilier pour l'Antarctique. Est-ce qu'il y a eu d'autres qui t'a vraiment impacté?
Ah là là, il y a eu tellement de choses, Philippine, on pourrait en parler pendant des heures. J'ai vécu des très belles rencontres en France, notamment au sein de parcs nationaux. On a la chance en France d'avoir des parcs qui sont absolument magnifiques, des espaces protégés qui sont fabuleux. Et dans ces parcs, j'ai rencontré des personnes qui travaillent ou qui y ont travaillé, qui m'ont partagé toute leur passion finalement, leur envie de faire passer tout un tas de messages sur l'intérêt de prendre le temps, d'écouter, de regarder autour de soi. En fait, ça a été plein de petites gouttes qui ont alimenté, et c'est très bien parce que ça fait le lien avec la Viosa, qui ont alimenté une jolie rivière sur le sujet de finalement comment est-ce qu'on arrive en tant que citadin, parce que moi je suis une citadine pure souche, à sortir un peu de notre quotidien hyper connecté, hyper stimulé, hyper engagé, hyper rapide, hyper tout ça, pour en fait juste aller dehors et se mettre à l'écoute de ce qu'il y a autour de nous. Et donc des humains qui sont autour de nous et qu'on ne prend pas suffisamment le temps d'écouter, et de toutes les autres espèces. Et donc... En fait, le fil rouge de cette année, et c'est enfin, que ce soit dans le Mercantour, dans les Pyrénées, où j'y ai passé un mois, ou en Camargue, en Bretagne et autres, ça a été vraiment ça, c'est s'arrêter, prendre le temps, s'asseoir, au sens propre comme au sens figuré, rencontrer tous les gens autour, et puis tendre l'oreille et voir ce qui se passe. Et de fil en aiguille, c'est ça qui est absolument magique, c'est que quand tu es toi-même ouverte à la rencontre, il se passe plein de choses que tu n'aurais jamais soupçonnées, qui t'emmènent chemin faisant dans une direction que toi-même, tu n'aurais pas non plus soupçonnée. Et ça fait une espèce de feu d'artifice, de projet et d'envie après qui ne souhaite que s'exprimer dans des actions plus concrètes.
T'en parles avec tellement d'envie et tellement de sourire, là, ça nous donne tous envie de partir de notre appart et d'aller dehors. On ne sait pas pourquoi faire encore, mais on va trouver quelque chose.
même pour rien faire, tu vois, même tu sors de ton appart, tu t'assois, alors peut-être pas par terre si tu habites à Paris, dans un parc et t'attends et tu vois ce qui se passe et c'est formidable. Rien que ça.
Tu as abordé justement le fait de te retrouver dans des situations que tu n'attendais pas, que tu n'avais pas prévu. Justement, qu'est-ce qui t'a fait t'amener au jour où tu t'es dit « Tiens, si j'allais me foutre dans un fleuve hyper dangereux, hyper mouvementé pour faire une petite descente en packraft ?» Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, t'es pas partie toute seule, t'es partie avec Mathieu, qu'on connaît bien, qu'on a déjà eu sur le podcast, qui est un copain et un aventurier qu'on adore écouter. Vous êtes partis tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes?
Excellente question. Il s'est passé plein de choses. La première chose, c'est que moi, j'en ai un peu marre d'entendre que des mauvaises nouvelles sur les sujets de l'environnement et de la biodiversité. Parce qu'on ne va pas se mentir, hein, le tableau est quand même pas tout rose. Et donc, j'avais envie de faire quelque chose qui était dans un cadre plutôt positif. Et en fait, Mathieu avait découvert quelques mois plus tôt la Viosa, donc qui est la rivière qu'on a descendue, avait été, après des années et des années de travail, de lobbying, d'associations internationales et locales, avait été nommée parc national, premier parc national fluvial d'Europe.
Donc ça, c'est assez exceptionnel, on est d'accord.
Assez exceptionnel, exactement. Et en fait, donc, qu'est-ce que c'est, je suis un petit en deux mots, qu'est-ce que c'est qu'un parc national fluvial et pourquoi la Viosa? La Viosa, c'est une rivière donc, qui prend sa source en Grèce, qui traverse une partie de la Grèce plutôt au nord et après qui traverse toute l'Albanie et qui se jette en mer Adriatique, qui est une des dernières rivières sauvages d'Europe. Qu'est-ce qu'une rivière sauvage? Une rivière sauvage, c'est une rivière sur laquelle il n'y a pas de construction humaine, il n'y a pas de barrage et le cours n'a pas été dérivé pour des raisons humaines. Tout est naturel dans le sens où elle prend sa source à un endroit et ensuite elle vit sa life tout simplement.
Et il n'y a aucune construction, aucun impact de l'homme.
il n'y a aucune construction sur la rivière. Après, il y a des milliers de personnes qui, parce qu'on est en Europe, évidemment, vivent autour de la rivière. Et ça, on y reviendra peut-être. On a pu constater l'impact de l'homme parce qu'on a vu du plastique, parce qu'il y a des villes qui sont autour. Donc forcément, il y a des transmissions de liquide ou autre. Il y a des rejets, malheureusement, encore dans cette rivière. Mais le terme de rivière sauvage, c'est un terme générique qui veut dire une rivière dont le cours n'a pas été modifié par l'homme et sur laquelle il n'y a pas de construction humaine. Ça paraît en fait assez évident. Tout le monde se dit, bah oui, une rivière, c'est ça. Sauf que ce qui est fou, c'est que c'est devenu l'exception parce que quasiment toutes nos rivières un peu conséquentes, bah, les petits cours d'eau, la Viosa, ça fait 270 km, grosso modo, toutes nos rivières en Europe ont subi des modifications du fait de notre activité humaine ou bien ont subi la construction de barrages qui sont en exploitation ou la plupart du temps qui ne sont plus en exploitation. Et quand ces barrages, pour des raisons X ou Y, notamment économiques, ne sont plus en exploitation, eh bien juste on les laisse et puis on va ailleurs. Et ça, c'est un vrai problème, au-delà des aspects esthétiques, etc. C'est un vrai problème parce que quand tu crées un barrage dans une rivière, en fait, tu casses le continuum de biodiversité, qui est un terme un peu barbare pour dire que la rivière, c'est un flux continu de tout un tas de choses, d'eau, mais aussi de limons, d'éléments organiques, de poissons, de tout ça. Et en fait, à partir du moment où tu crées un barrage, c'est comme si tu fermais une porte. Et donc, tout ce qu'il y a en amont ne peut plus circuler vers l'aval, et tout ce qui est en aval ne peut plus remonter, parce qu'il y a tout un tas de choses, les poissons migrateurs, pour ne pas les nommer, qui ont besoin, en fait, de remonter le cours de cette rivière. Et donc, aujourd'hui, dans énormément, la grande majorité de nos rivières, on ne peut plus faire ça. Et donc, ce qui nous amène à des situations catastrophiques, dont personne ne parle, parce que tout le monde s'en fout, mais quand même, on est là, donc on en parle. Aujourd'hui, il y a un déclin de plus de 90% des poissons migrateurs d'eau douce en Europe au cours des 50 dernières années.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des risques d'extinction de ces espèces, en fait.
Oui, et en fait, au-delà de l'espèce en question, si tu n'as plus les poissons qui remontent, tu n'as plus la nourriture pour les oiseaux qui viennent ébouffer, ils ne pondent plus en amont de la rivière, donc ça veut dire que ces œufs, ces larves, etc., c'était de la nourriture pour d'autres animaux aussi. Les déchets, quand ils meurent, ça crée des sédiments et ça permet de nourrir les sols. Enfin bref, tout l'écosystème, ce n'est pas juste les poissons, mais les poissons étant un maillon de la chaîne alimentaire et de la chaîne de l'écosystème, tout l'écosystème risque de périr. Et accessoirement, quand on l'oublie un petit peu souvent, nous faisons partie de cet écosystème et donc nous aussi, nous sommes un petit peu à risque. Donc, tout ça pour dire, long story short, tout ça pour dire que ce sujet de dire, OK, on a une rivière qui aujourd'hui est encore sauvage et sur lequel il y a des projets, parce qu'il y avait des projets de créer des barrages, etc., et qu'on a réussi, après 10 ans de lobbying d'associations comme Eco Albania, comme Riverwatch et l'entreprise Patagonia, à créer une charte avec le gouvernement albanais pour protéger cette rivière. Ça, c'est une trop bonne nouvelle. Et en fait, on avait envie, avec Mathieu, de
la célébrer un peu, c'est ça?
Exactement.
D'en parler, d'en faire parler.
Et de célébrer et de découvrir ce que c'était et de découvrir aussi les aspects positifs et les aspects moins positifs. Parce que ça ne veut pas dire, c'est pas parce que 3 mois auparavant, il y avait eu un décret ou une annonce de création d'un parc national que tous les problèmes sont réglés. Non, évidemment, mais c'est juste une première étape pour plus de prise en compte des populations locales autour de la rivière qui se sont battues pour préserver leur rivière et de l'environnement au global pour essayer de faire les choses de manière un peu plus, j'allais dire, intelligente ou en tout cas harmonieuse.
D'accord. Donc vous aviez eu envie justement de faire parler de cette histoire de la Vioja en allant faire une aventure dessus. Et donc votre but, c'était bien évidemment de continuer dans cette histoire de zéro impact. Donc, vous vous êtes rendu sur place, pas en avion, mais en train, bateau, tous les moyens possibles pour éviter de prendre l'avion. Donc, vous avez pris le temps, en fait. Déjà, on reprend une notion du temps différente, on reprend une notion du voyage différente. Et au moment où vous arrivez sur place, déjà, quel est le premier endroit où vous arrivez à côté de la rivière et qu'est-ce qui se passe le premier jour?
Alors, on arrive, on arrive en ferry depuis l'Italie. De la côte grecque, on a pris un bus pour arriver au fin fond de la Grèce dans un petit village qui s'appelle Metsovo. Et là, après avoir essayé de trouver notre chemin, on arrive au début, en tout cas ce que Google Maps identifie comme le début de la rivière, qui, en fait, on ne va pas se mentir, est une flaque d'eau. Enfin, moi, j'avais jamais vu à quoi correspondait une rivière naissante. Et en fait, c'est juste rien du tout. C'est de l'eau qui émerge de terre, qui ensuite redisparaît, qui un peu plus loin réémerge, qui devient une plus grosse flaque d'eau. Donc, en fait, on regarde ça et on se dit est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on va réussir à naviguer sur ce truc? Ça, c'est déjà la première interrogation parce que déjà, on était en plein été. Il faisait assez chaud. On ne savait pas du tout. On avait très peu d'informations sur le début de cette rivière, autant sur la partie albanaise. Comme il y a pas mal de villages autour, on savait que c'était plutôt navigable. Mais la partie grecque, c'était le gros point d'interrogation. Et on ne savait pas du tout si on allait pouvoir naviguer facilement, naviguer tout de suite, ou si on allait devoir essayer de trouver un itinéraire bis pendant 60-70 km à pied à côté de la rivière. Donc, on avait identifié en amont sur Google Maps un potentiel itinéraire au cas où, si on n'avait pas pu directement aller sur le fleuve, exactement. Mais c'était un itinéraire qui était vraiment avec un dénivelé de dingue. Et nous, on avait des sacs entre les combinaisons, les packs raft et tout ça, qui, plus la nourriture pour une petite semaine. On essayait de se ravitailler toutes les semaines une vingtaine de kilos. Donc là, on arrive et on n'avait qu'une envie, c'était de se mettre à l'eau. On voit la flaque, on se dit « Waouh, ça va être compliqué !» Donc, on marche pendant, en tout, on a marché une journée et demie, entre une journée et demie et deux jours, à côté de ce début de rivière qui grossissait petit à petit, qui devenait un petit cours d'eau, qui redisparaissait, etc.
Ah ouais, parce que tu arrives à la rivière, en fait, il n'y a pas de rivière, il y a un tout petit cours d'eau. L'eau, il y a des moments où tu la distingues à peine, c'est ça? Et donc, tu essayes de suivre ce petit cours d'eau que tu distingues pas trop jusqu'à espérer un moment arriver à beaucoup plus de puissance, en fait, que l'eau se déverse beaucoup plus.
Mais c'est un peu ça. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que tout se fait de manière très fluide parce que, il n'y a pas un... Avant, il n'y avait pas de rivière. D'un coup, il y a la rivière. C'est vraiment quelque chose. Bah, c'est le continuum dont on parlait tout à l'heure. C'est petit à petit, la rivière se dessine. Il y a un petit peu plus d'eau qui arrive. Il y a un petit peu plus de courant. Enfin, ça se crée vraiment petit à petit. Et au bout d'un jour et demi, on voit vraiment commencer à y avoir une rivière, mais avec très peu d'eau, beaucoup de rochers, beaucoup de cailloux, etc. Là, on arrive au village de Vovouza. On se pose avec Mathieu et la terrasse d'un café, et là, on se dit, soit on prend un itinéraire bis, parce que, en fait, la rivière, on se dit qu'elle ne va pas être praticable et il n'y a pas assez d'eau, etc. Soit on tente, avec ce risque de, quand tu tentes, en fait, quand tu pars sur une rivière, il n'y a pas de retour possible, dans le sens où tu es très vite embarqué. Il n'y a pas de chemin de randonnée qui mène à la rivière en question.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est très vite éloigné de tout, en fait, c'est
voilà.
Ça
voilà, on savait que pendant 4 jours, on allait être complètement encaissé, parce que la partie grecque, c'est une partie qui est vraiment, il y a des gorges hyper profondes, il y a la rivière qui se balade entre ces gorges, mais on savait qu'il y avait des gros rochers et tout ça, mais on ne connaissait pas du tout la puissance de la rivière à ce moment-là, on ne savait pas s'il y avait assez d'eau, ni s'il y avait trop d'eau, et il y a un côté, si tu y vas, en fait, tu te jettes un peu l'eau, au sens propre du terme. Et on ne peut pas faire marche arrière, parce qu'une fois que tu es embarqué dans la rivière, c'est un petit peu difficile et tu n'as pas de sentier de randonnée qui peuvent te permettre de t'extraire de là. Donc, on réfléchit un peu au sujet. Très vite, on se dit en même temps, on n'est pas là pour faire de la randonnée avec un sac de 20 kilos, parce que, un, ce n'est pas très confortable. Et puis, deux, on est parti pour naviguer. Donc, tentons. Allons-y, naviguons, et puis on verra ce que ça donne. Donc, on prend nos packs raft, on les gonfle. Les packs raft, c'est c'est comme des espèces de petits kayaks gonflables. Donc, l'avantage, c'est que c'est très léger. Donc, ça permet de partir randonnée, les avoir, l'avoir sur le dos. Ça se gonfle très vite. Et puis, c'est des petites embarcations qui sont assez maniables. Il ne faut pas être expert. On en avait fait un petit peu avant. Mais bon, moi, je ne suis clairement pas une experte. Hein, on va pas
se mentir. Toi, tu n'avais jamais fait de kayak avant de faire ça?
Non, on avait juste fait deux stages de préparation avant avec un pro qui nous avait mis dans les pires situations ever.
Tant mieux, comme ça, tu es prête à toutes les éventualités.
L'objectif était de se dire, ok, si en fait vous êtes tous les deux au milieu de nulle part et que ça se passe pas bien, bah voilà comment il faut réagir. Donc moi, après le premier week-end de préparation, je suis rentrée de là en disant, en fait, moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai pas du tout envie.
En fait, vous êtes pas dans les vacances. Je m'embarque pas là-dedans, finalement.
C'était un peu ça, l'état d'esprit. Et en fait, bon, très vite, on sait que l'idée, c'est de savoir se mettre en sécurité quand on est dans des situations dangereuses, mais c'est de pas aller jusqu'à ces extrêmes-là. Mais voilà, on était un peu coachés, un peu rodés. On connaissait le matériel. Donc, paf, on gonflait pas craft. On se jette à l'eau. Et là, au début, pendant plusieurs kilomètres, la rivière est bien, voilà, existe bien, mais elle est très peu profonde. Il y a pas mal de petits rochers. Et donc, on passe son temps à essayer de pagayer, à sortir du packraft, à tirer le packraft, à l'emmener dans les rochers, à glisser, à se prendre des petits rapides, à tomber, tout ça. Et en fait, c'est le début, c'est vraiment une alternance de... Je tire un peu mon pacra dans les petits rochers, j'embarque, j'essaye de pagayer plus loin, à nouveau, la rivière s'élargit exactement, donc il y a moins de profondeur, donc on repart, voilà. C'est une petite routine, en fait, qui se met en place. Au début, on trouve ça assez pénible.
Parce que ça dure plusieurs jours, c'est ça ?
Ça dure, non, ça dure une journée. Okay. À peu près une journée, peut-être un petit peu plus. Et en même temps, on se dit, oui, mais c'est... Enfin, on est là pour ça, on est là pour... Cette rivière, elle grandit, elle est toute jeune, elle est toute fraîche. Au fur et à mesure, elle va se structurer, elle va grandir. Et donc, on accompagne, en fait, sa croissance. C'est assez rigolo. Donc, en fait, petit à petit, bah, on s'adapte. Oui, on ne va pas très vite, mais en fait, bah, c'est normal parce qu'on prend le temps. Et puis après, il y aura plus de débit et ça se passera bien. Et au fur et à mesure, donc, il y a de plus en plus de débit, il y a de plus en plus de rapide. Et là, on se dit, waouh, ah oui, en fait, ça peut quand même aller très, très vite. Et il y a aussi beaucoup de très, très gros rochers. Et donc là, très vite, on entre dans une phase où on se retrouve avec ce fameux passage de 4 jours qui débute, qui commence à être très, très encaissé. En fait, en amont, on avait essayé de faire une petite reco, mais avec Google Earth, le canyon est tellement étroit qu'en fait, Google Earth ne parvient pas à voir
On voit même pas l'eau en dessous, en fait.
Exactement.
D'accord, voilà. Okay.
On voit juste qu'il y a une espèce de gros truc noir et en dessous, impossible de définir. Donc, c'est pour montrer vraiment, on était dans quelque chose de très... Enfin, des parois qui étaient très abruptes. C'était magnifique. On était complètement coupés du monde. Il y avait un petit côté adrénaline aussi parce qu'on sent que la rivière prendre la force, prendre la puissance, qu'il y a des gros rochers, qu'on maîtrise l'embarcation, mais qu'on tombe aussi de temps en temps et qu'il faut réussir à se mettre en sécurité.
Et quand tu tombes, comment ça se passe ? Enfin, tu tombes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu sors vraiment de ton packraft et que tu le tiens à la main, tu essayes de te remettre dedans ou alors
ouais.
Tu es un peu accroché. Enfin, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Ça fait flipper, non ?
Oui. Alors, dans le meilleur des cas, quand tu tombes et que tu arrives à garder d'un côté ton packraft et de l'autre ta pagaie et que juste tu te laisses aller, c'est bien. La plupart du temps, quand tu tombes, en fait, tu es un peu dans une machine à laver et donc ton packraft il part tout seul devant toi, mais souvent à un moment ou à un autre il s'arrête. Et toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu gardes la pagaie parce que pour le coup, si tu perds ta pagaie,
tu n'as vraiment plus mal.
Voilà, exactement. Et après, l'expédition peut durer très longtemps. Alors, on avait une pagaie de rechange, évidemment. Mais l'enjeu, c'était un de bien se mettre en position pour pas se faire mal, parce qu'en fait, enfin, face à l'eau, tu peux rien faire. Enfin, tu peux pas lutter. Donc, tu dois te laisser aller, tu dois te laisser porter par le courant et garder le plus possible la pagaie dans les mains.
Ouais. Et question bête peut-être, mais vous aviez des casques ?
Ouais, bien sûr.
Ok.
On avait des casques, on avait des gilets de sauvetage, on avait une combi. Sur notre gilet de sauvetage, on avait un couteau, parce que si tu t'emmêles, tu sais, dans des cordes, dans tout ça, hop, il faut pouvoir couper pour pas rester la tête sous l'eau, encaisser. Enfin voilà, on avait des petits gestes quand même de sécurité qu'on avait appris au préalable et on faisait les choses de manière hyper prudente parce que, encore une fois, c'est le genre de situation où si t'arrives un problème, il n'y a personne qui vient te chercher. Bon,
Ça
déjà, parce que.
devient tout de suite dramatique, en fait, parce
Ouais.
que t'as pas accès au secours, c'est ça? Vous aviez personne
Non, il y a.
autour.
Non, non, il y a absolument. Pendant là, ces premiers jours, tu ne vois absolument personne. Tu n'as aucun sentier de randonnée. Un hélicoptère ne peut pas atterrir parce qu'en fait, tu es dans des gorges. On n'a pas, on n'avait pas de réseau, mais on avait pris
Un téléphone
un petit.
satellite?
Voilà, c'est ça, enfin, l'équivalent d'un téléphone satellite pour contacter les urgences au besoin, mais tu contactes les urgences, enfin, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Donc, tout ça pour
Ouais,
dire
ils vous disent bah bonne chance.
que. C'est ça. Mais en fait, on était. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on était, on n'était pas dans un état d'esprit de casse-cou, en fait. On était dans un état d'esprit de OK. On fait attention à nous, on prend soin de nous, on évalue les risques, on y va petit à petit, on analyse, etc. On ne se fait pas peur. Est-ce qu'il n'y a pas de plan B? Et ça, c'est le genre de situation que moi, je n'avais jamais expérimenté. Le côté, en fait, s'il y a un problème, on a juste nos petits bras, on a l'autre éventuellement, si c'est nous qui avons un problème, ou nous, on est le secours potentiel de l'autre. Mais il n'y a pas de plan B et ça crée une espèce de. Comment dire, une vraie humilité, enfin un sentiment d'humilité qui fait du bien et qu'on oublie encore une fois beaucoup dans notre quotidien. On a l'impression que tout est possible, que tout est faisable, qu'on peut tout dompter, que la nature n'est qu'un obstacle à franchir. Et en fait, non, en fait, on n'est rien du tout. Et donc, de se retrouver de temps en temps dans ce type de situation, je ne dis pas qu'il faut aller chercher à l'extrême, mais ça nous permet aussi de reposer un petit peu les priorités et reposer les bases de en fait toi humain par rapport aux éléments et par rapport aux risques potentiels tu n'es pas grand-chose donc comporte-toi en conséquence comme une petite chose à qui il peut arriver tout un tas de malheurs et apprends et prends ton temps et écoute ton environnement et lis la rivière aussi on a beaucoup appris enfin moi c'est ça qui m'a marqué pendant ces 2 semaines c'est j'ai eu l'impression d'apprendre une nouvelle langue comme tu apprends une langue étrangère en fait de savoir lire la rivière, de savoir regarder ce qui se passe face à toi et de dire, ah ok, si la rivière va dans cette direction, ça veut dire qu'en fait, il y a un obstacle qu'on ne voit pas. Si ça accède à cet endroit-là, ça veut dire qu'en fait, il faut que j'aille de l'autre côté. Là, je suis sûre qu'il y a une branche qui est cachée, mais je ne vois pas, mais je sens que, vu comme la rivière se dessine, ça veut dire ça.
T'as
Et en fait,
l'impression que tu as une intuition qui se développe de plus en plus.
oui, c'est un langage, en fait, que tu n'avais pas soupçonné avant et qui, à force de vivre au contact de cet élément-là, tu découvres son mode de communication. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Oui, c'est une nouvelle langue que tu ne parles pas forcément, mais que tu parviens petit à petit à comprendre ou à déchiffrer et qui te permet, toi, d'évoluer ensuite dans cet environnement.
Et ça induit aussi d'avoir une confiance à 1000%, une confiance extrême et très profonde dans la personne avec qui tu parles.
Ouais, complètement. Complètement. Tu pars pas avec n'importe qui dans ce type d'environnement. Donc, il faut bien se connaître. Il faut connaître l'autre et se connaître soi-même. Il faut entendre, s'écouter quand, en fait, ton corps, au bout de 10 heures de pagaie, te dit, en fait, j'en ai marre. Tu te dis, OK, c'est maintenant qu'il faut s'arrêter. Et c'est pas au rapide d'après, parce qu'en fait, si le rapide d'après, c'est peut-être le rapide de trop. Donc juste, on va arrêter maintenant. On va trouver et on trouvait quand même des endroits pour camper. On avait pris une tente, donc voilà, on se posait sur le rivage. Et donc, c'est apprendre à s'écouter, c'est apprendre à écouter l'autre, c'est réussir aussi à jongler avec les forces et les faiblesses de chacun. Et il y en a un qui est plus moteur le matin, d'autres plus l'après-midi, en fonction des situations aussi. Donc oui, il y a une vraie nécessité de dialogue, de communication et puis de confiance complètement.
Ouais, et c'est très important aussi ce que tu viens d'aborder, notamment dans ces aventures comme ça, la force de renoncer, de savoir dire, bon, ok, là, on en a déjà fait beaucoup, Peut-être qu'on peut en faire un petit peu plus, mais ce qui est raisonnable, c'est de se dire non, on s'arrête maintenant. Et ça, c'est une vraie force. C'est une vraie force de connaître cette limite, cette frontière entre le moment où tu te dis oh, allez, je suis pas fatiguée, j'y vais, et de se dire non, ok, analyse tout ce que tu as fait avant, ça fait déjà beaucoup, on va se calmer, on va s'arrêter là, c'est assez pour aujourd'hui.
Oui, complètement.
Et quels ont été les très beaux moments de toute cette expédition? Quels ont été les très beaux moments et les pires moments galères? Commence peut-être par les moments galères, comme ça, après, ça nous réconfortera d'avoir les beaux moments.
Alors, étonnamment, souvent, les pires moments galères sont aussi les très beaux moments.
Parce que tu apprends beaucoup, parce que oui. Tu prends toujours une leçon, tu tires toujours une leçon de la galère dont tu viens de te sortir.
Oui, c'est un peu ça. Alors, en fait, cette partie-là en Grèce qui était dans les gorges, c'était absolument magnifique parce que comme c'est très peu accessible, il y a peu de gens qui y vont. Enfin, nous, on connaissait, je pense, une ou deux personnes qui étaient allées quelques années auparavant, mais c'est quand même très reculé. Tu as l'impression d'être au bout du monde alors que tu es en août en Grèce. Donc, autant te dire, dans la destination la plus touristique d'Europe, où tu te dis, mais jamais j'irai en août en Grèce. Et là, tu te retrouves en août en Grèce et tu as l'impression d'être, d'être au fin fond du Canada ou au milieu de nulle part. Enfin, vraiment au bout du monde. Donc ça, il y avait un côté absolument magnifique et très réconfortant de se dire, oh, je suis en Europe, je suis dans un pays qui est très touristique. Et en fait, il y a tellement d'îlots, d'endroits merveilleux et insoupçonnés qui
restent sont... paisibles. Voilà. En fait, même dans des destinations connues, il y a des endroits quand même un peu cachés. Il reste encore des endroits secrets où on peut aller se perdre.
Donc ça faisait partie des très belles découvertes. On a croisé, parce que ce qui est génial quand t'es en packraft, c'est que tu fais pas de bruit. Et donc t'as un contact, moi qui suis une grande fan des animaux, on va pas se mentir, t'as un contact avec la faune qui est très privilégiée. Tu vois des oiseaux très bien, on a vu beaucoup de cigognes, beaucoup de hérons, on a croisé un chamois qui juste devant nous traversait la rivière et qui a rejoint deux autres chamois qui sont montés, qui ont grimpé après dans la falaise. Tu vois plein des serpents, des poissons, des tout ça. Enfin, il y a vraiment, tu t'entends tous les oiseaux autour de toi, t'as vraiment l'impression que comme tu ne fais pas de bruit, en fait tu déranges pas, et comme tu suis le mouvement, parce que dès que tu t'arrêtes de pagayer, en fait, t'es pas statique, mais tu suis un mouvement naturel qui est le mouvement de l'eau, tu te fonds complètement dans cet écosystème. Donc ça crée des moments
privilégiés.
Oui, complètement, presque de complicité avec toutes les autres espèces que j'ai trouvé, que j'ai vraiment trouvé très beau. Dans les moments plus galères, émotionnellement, quand tu dois passer des rapides, que tu te retrouves dans des situations que tu estimes dangereuses, ou en tout cas avec lesquelles tu n'as pas forcément de filet de sécurité, ça peut être dur émotionnellement, en fait. C'est pas forcément dur physiquement, même si je ne suis pas très musclée des bras, on ne va pas se mentir. Donc, de temps en temps, quand il fallait bien pagayer dans les rapides, j'étais pas la meilleure.
Mais tu es une grille.
Exactement. Mais c'est plus le côté, en fait, tu dois tellement donner, te concentrer.
Pour lutter contre la panique.
Ouais, et puis être vraiment là, en fait. T'as des moments où tu dois être ancré, tu dois être physiquement là, tu dois être intellectuellement là, tu dois être pour bien gérer des situations complexes qui peuvent te fatiguer. Donc ça a été les éléments plus durs. Donc oui, à la fin de la journée, t'es lessivé, tu dis oh, on reprend demain, et après tu dis et je suis en vacances, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Il y a des petits moments comme ça, et ça c'est normal. Et après, à la toute fin de l'expédition, c'est les fleuves, après, enfin la deuxième partie de l'itinéraire en Albanie, le fleuve s'élargit énormément. Et là, tu sais, t'as l'impression, enfin, c'est beaucoup moins ludique parce que c'est très large, parce qu'il n'y a plus de courant, voire même de temps en temps, t'as beaucoup de vent aussi qui te vient de face, t'as le courant de la mer. En plus, je ne sais pas ce que j'avais mangé, mais le dernier jour, j'étais malade au fond du trou. Et donc là, tu te dis, là, c'est dur. tu sens la fin, tu sais que tout ce qui était plus magique, merveilleux, etc. est derrière toi. Et en même temps, tu as envie de toucher cette mer, d'arriver au bout, parce que c'est vraiment la concrétisation de, voilà, tu t'accompagnes tout le cheminement de cette rivière depuis 15 jours et tu as envie de voir cette fin-là. Et c'est très beau parce qu'il y avait plein de filets de pêche en même temps, on était tout seul, il y avait beaucoup de vent. Mais c'est des moments qui, à la fois, c'est pour ça que je te dis, c'est à la fois, c'est très beau et en même temps, c'est les moments qui étaient les plus difficiles pour moi.
C'est dur parce que tu es épuisé, parce que tu arrives à la fin du voyage, parce que tu as déjà accumulé tout ce qui s'est passé avant. Et en même temps, comme tu dis, tu arrives à ton but final. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le mental prend le dessus sur le physique?
Écoute, alors oui, parce que comme j'étais malade, j'avais vraiment plus de physique. Mais non, ça, en fait, c'est je pense qu'il y a une volonté de voir jusqu'au bout, jusqu'où va la rivière. En fait, comme tu l'accompagnes depuis 15 jours, il y a un moment, tu vois, le dernier jour, on a commencé à goûter l'eau et on s'est dit, oh, elle est salée, ça y est, mais est-ce que la rivière est toujours là? Est-ce qu'elle s'est complètement, tu vois, elle a complètement fusionné avec la mer? Et donc, t'as un peu envie, c'est comme... je sais pas, t'accompagnes ton petit bébé jusqu'au bout et tu dis vas-y, envole-toi. Ben là, c'était un peu ça. C'était les derniers moments où tu dis allez, vas-y, jette-toi, vis ta vie, longue vie. Et donc, c'est plus, je sais même pas si c'est le mental qui prend le dessus. Je dirais que c'est l'émotion, en fait. Je pense que c'est ouais, ce côté un peu émotionnel où tu te sens attaché, ce qui est complètement stupide, hein, on va pas se mentir, mais tu te sens attaché à toutes ces gouttes d'eau. Qui t'ont porté pendant 2 semaines et t'as envie de finir le truc avec panache et de dire bah voilà, et après l'immensité, c'est pas après moi le néant, c'est après moi en fait l'immensité, et ça c'est assez chouette et assez émouvant à vivre.
C'est pas stupide, tu te dis que c'est stupide, mais ça a été ton environnement pendant des jours, des semaines, donc en fait ça devient finalement ça devient ton confort, enfin pas ton confort mais ça devient ce que tu connais, ça devient un endroit où tu as vécu beaucoup d'émotions. Donc, non, c'est pas stupide du tout. Est-ce que toi, d'ailleurs, ça t'a permis de retrouver cette connexion que tu étais allée chercher dans ton autre grand voyage là, d'une année, cette connexion à la biodiversité, cette connexion à la non-stimulation, cette reconnexion, en fait, avec tout l'environnement auquel on appartient?
Oui, complètement. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est un moyen de transport qui est hyper smooth. En fait, sans agir, tu bouges parce que tu suis le courant. Donc, tu as un côté, tu épouses. Là, tu épouses le paysage, là, tu épouses le mouvement qui est très beau. Comme tu es toi-même dans une situation où tu n'es pas dans ta zone de confort, parce que nous, humains, on a 2 pieds, 2 jambes, on marche, on est là pour marcher. On n'est pas trop là pour voler et on n'est pas trop là pour nager. On peut un peu, mais ce n'est pas notre environnement de prédilection. Et donc là, tu sors de ta zone de confort, tu épouses un paysage, tu découvres aussi une autre manière d'appréhender ton environnement, parce qu'on a souvent tendance à l'appréhender par la terre et à regarder le rivage ou à regarder l'océan ou la rivière. Et là, en fait, tu changes complètement de prisme parce que t'es dans l'eau et tu regardes la terre. Donc, ça a déjà une approche très différente. Et tu es bas, en fait. T'es vraiment... t'es à ras de l'eau. Enfin, tes mains touchent l'eau, ton corps est constamment immergé, mouillé, etc.
Presque parti, en fait.
Ouais, c'est ça. Et donc ça, en fait, cette connexion que j'ai essayé de chercher pendant un an, moi c'était beaucoup... lié à la terre, à part en effet pendant 2 mois sur le voilier en Antarctique, mais cette connexion à l'élément eau, je l'avais pas forcément vécu jusqu'à maintenant, et j'ai trouvé ça hyper hyper intéressant, et une connexion aussi au monde animal autour, qui était beaucoup plus simple, parce que tu passes 15 jours dehors, tu fais pas de bruit, donc en fait t'es beaucoup plus facilement accepté par ton environnement. On campait au bord de la rivière, donc en fait, tu vois toute la vie, en fait, tout ce qui se passe, les oiseaux qui viennent s'abreuver, les mammifères et tout ça, tu vois. Et en fait, la rivière est vraiment le lien. Enfin, tous les animaux ont besoin d'elle pour boire, pour vivre, pour s'abreuver. Et donc, en fait, quand toi-même, tu évolues en son sein. Bah, c'est un peu le lien, le lieu de rencontre et de connexion. Donc, tu peux vivre aussi tout un tas de choses que tu n'aurais pas forcément vécues si tu avais été sur tes deux pieds sur la Terre.
Ouais, complètement. Je comprends complètement ce que tu dis. Et c'est des moments vraiment privilégiés. Et ça me fait penser à une question que j'avais posée à une autre invitée que j'ai eue un peu plus tôt et que j'aimerais bien te poser aussi parce que je pense que ça va bien avec ce que tu as vécu et avec ton profil. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition du luxe? Parce que le luxe, ça peut être aussi d'être dehors et de ne pas être stimulé, de vivre l'aventure. Et en fait, je trouve ça intéressant d'avoir une nouvelle définition du luxe. Alors pour toi, qu'est-ce que c'est le luxe?
Écoute, déjà, je pense que le luxe, c'est quelque chose qu'on s'accorde pas parce que c'est précieux et parce que c'est difficile d'accès. Ça, je pense que c'est la définition globale. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est précieux et ce qui est difficile d'accès, c'est du temps long. Moi, je dirais que c'est ça le luxe parce que aujourd'hui, on s'accorde pas forcément de temps pour soi, pour réfléchir au sujet. Et à mon avis, c'est le premier luxe, ce temps long et cette disponibilité d'esprit. Parce qu'on est constamment dans des environnements qui sont très connectés, très stimulés, que même quand on est aujourd'hui, on se balade au fin fond d'un parc, d'une réserve en France, et ben on arrive toujours, au bout de 3 jours, on aura du réseau, qu'on le veuille ou pas, en fait, on l'aura. Et donc, si on peut l'avoir, et ben on le prendra. Et donc, ce luxe de se déconnecter et d'appréhender le temps long, je pense que c'est ce qu'il y a de plus précieux et c'est en même temps ce à quoi on consacre le moins d'énergie en tant qu'individu et ce que je trouve assez dommage.
Donc, pour toi, le luxe, c'est de reprendre le temps et d'avoir une vision du temps différente et de s'accorder du temps pour des choses, comme tu dis, qui sont précieuses et qu'on ne fait pas assez dans notre quotidien, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Ok, super. Merci beaucoup, Ingrid. Et j'ai deux petites questions traditionnelles de ce podcast. La première, c'est si tu avais le pouvoir, là, je te donne le pouvoir de remonter dans le temps, quel serait le moment de cette aventure que tu voudrais revivre?
Si j'avais le pouvoir de remonter dans le temps, je pense que je vivrais la dernière journée avant d'arriver à Konitsa, qui est le petit village dans lequel on a atterri après nos 4 jours de tunnel, de rapide et autres. Et en fait, cette dernière journée était incroyable parce qu'on sentait qu'on se rapprochait de la fin de ces gros rapides, qu'on était supposé bientôt voir un monastère, qu'on imaginait, je ne sais pas pourquoi on avait projeté que le monastère serait vraiment au bord de la rivière. Et donc, à chaque rapide, on regardait est-ce que le monastère est là, est-ce que le monastère est là, etc. Et à un moment, on a levé les yeux, on a vu, c'est donc, on était toujours dans nos grandes murailles qui nous entouraient, ce canyon. Et en fait, le monastère était tout là-haut. Et il y avait un côté assez dingue, assez magique de voir cette énorme structure qui était presque dans les nuages, avec ce bâtiment qui est quand même dédié à la méditation, au temps long, à la prière, à l'introspection, à tout ça, qui surplombait cette rivière. On disait que les moines devaient avoir une vue incroyable, on les a beaucoup enviés. Mais c'est à la fois cette journée où on était un peu dans le stress, dans l'attention, on regarde devant soi et d'un coup on lève les yeux et là on voit ce bâtiment incroyable, complètement féerique, qui annonçait aussi la fin d'une d'une étape de ce voyage qui était extrêmement dense, intense, et qui nous a menés à Konitsa. Donc, on a passé il y a un petit pont trop mignon, tout en pierre, complètement incroyable. Et là, on est arrivé. Et donc, Konitsa était le premier village après ces 4-5 jours où on était seul au monde. Et donc, il y avait des gens, comme on était en été, il y avait des gens qui se baignaient, il y avait voilà, des gens autour, auprès de la plage, etc. Et les gens nous ont vus débarquer. Ils se sont arrêtés. Il y en a qui prenaient des vidéos, des photos, et ils se disaient, mais d'où sortent ces deux gugus-là? Et donc, on s'est approchés, on a dégonflé les packrafts, on a un peu discuté avec les personnes qui étaient là, on a passé la soirée là-bas. Mais il y avait un côté complètement féerique et en même temps très ancré, en fait, de passer comme ça de cette bulle pendant 4 jours à cette confrontation avec les habitants, les locaux qui voulaient savoir mais d'où on venait, mais pourquoi des Français faisaient ça, mais d'où ils sortaient, mais où ils allaient, et qui était assez rigolote à vivre et que j'aimerais bien vivre.
Pour vous, c'était le tout premier, la toute première reconfrontation à la civilisation.
Ouais, exactement. Et la première bière fraîche qu'on a pu boire aussi.
Oh, waouh!
Et ça, c'est important.
J'adore. Et la deuxième question pour terminer ce podcast, c'est si tu devais résumer cette aventure par une phrase, une citation de ton choix, qu'est-ce que ce serait?
Alors, j'ai deux choses qui me viennent en tête.
Vas-y, lance-toi.
La première est pas très fine, mais c'est surtout parce que je l'ai revu récemment. C'est le film « La vie est un long fleuve tranquille », tu vois ou pas?
Mm-hmm. C'est... Ouais, je vois. Ouais.
Voilà. Et ben, en fait, quand tu passes 2 semaines sur une rivière, forcément, tu as un peu l'impression, tu sais, de voir passer ta vie ou de réfléchir à ta vie ou de tout ça. Et donc, le côté la vie, est-ce que la vie est un long fleuve tranquille? Est-ce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille? Est-ce qu'il existe des fleuves tranquilles? Telle est la question. Donc, ça c'est un peu le côté qui m'a fait pas mal... qui me fait pas mal sourire parce que forcément, quand tu te retrouves à pagayer pendant 15 jours, voilà, tu passes aussi beaucoup de temps à réfléchir. Et après, peut-être un autre sujet, c'est ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est le sujet du continuum. C'est un terme un peu bizarre, mais on oublie trop souvent que dans la vie, en tout cas au niveau de la biodiversité, si on veut restreindre, les choses sont toutes liées entre elles. Et en fait, le fait de partir d'un début et d'arriver à une fin et de faire un peu comme quand, tu sais, on te demande quand t'es petit de faire un dessin sans lever ton crayon. Là, il y a un côté comme ça, en fait, d'où on n'a pas levé le crayon pendant 2 semaines. Et c'est des choses qu'on fait très peu dans la vie de tous les jours parce que tu passes ton temps, tu bosses, après tu vas voir des potes, après tu fais une activité, après tu veux faire du sport et puis tu zappes et puis tu changes de casquette et puis tu changes le basket et puis machin, tac, 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 tac. Et tu fais plein de choses différentes. Et en fait, là, on n'a pas levé le crayon pendant 2 semaines. Et donc, tu t'ancres complètement. Et ce côté de continuum, je trouve que ça résume assez bien l'aventure qu'on a vécue et qui, je pense, pourrait être un peu... Enfin, que j'aimerais bien, moi, appréhender dans ma vie de tous les jours un peu différemment. Comment moins lever le crayon, souvent, dans notre quotidien.
J'adore cette image, en fait, de t'immerger complètement pendant un temps donné dans un seul thème, un seul projet. Et comme tu dis, de ne pas switcher tout le temps. Et finalement, de te consacrer toute ton énergie, tout ton esprit, toute ton âme, toute ta personne dans un seul projet pendant un temps donné. Et comme ça, tu le vis pleinement.
Et c'est hyper dur.
Ouais, c'est très, très dur. C'est très, très dur, mais on va conseiller à tout le monde d'essayer de le faire, de s'accorder un jour, une semaine, un mois, penser à quelque chose qu'on a envie de vivre complètement et se déconnecter du reste à l'extérieur. Et être présent à 100% pour ce projet qu'on a choisi. Ouais, je pense que c'est bien de s'accorder du temps comme ça. Merci beaucoup Ingrid, merci de nous avoir raconté cette aventure, merci de l'avoir parsemée de plein de petites informations scientifiques et très importantes. Merci beaucoup et Je vais remercier aussi les auditeurs d'avoir écouté cet épisode. On va vous mettre toutes les informations qu'Ingrid a citées dans la barre d'infos sous le podcast. Si vous voulez nous faire des petites dédicaces en story sur Instagram, ça nous fera très plaisir. Ingrid, à bientôt. J'espère qu'on pourra te réentendre nous parler de la nature et nous parler d'aventure. Je te dis à très vite. Passe une bonne soirée.
Merci beaucoup, Philippine. À très vite.